Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο.
Κύριε Χριστόν.
لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب.
Κύριε
برأفت ابنك الوحيد الذي أنت معه مبارك مع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
آمين.
سلام لجميعكم.
Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous reprenons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux musulmans et nous allons commencer par l'étude de l'année liturgique. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou des objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. L'année liturgique. Après avoir étudié le rythme de la journée, celui de la semaine et des mois, regardons maintenant de près le rythme de l'année. Comme l'année civile, l'année liturgique ne se déroule pas de manière monotone, mais connaît des temps forts avec des solennités et des temps plus effacés et modestes. Et comme l'année civile est rythmée par des saisons, l'année liturgique est rythmée par des périodes qui ont trait à la vie du Christ. À l'origine, au premier siècle, l'Église primitive célébrait d'abord la mort et la résurrection de Jésus tous les 8 jours. Puis, depuis le deuxième siècle, on mettait l'accent sur l'anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus. Pendant, l'Orient célébrait le 14 Nissan, le jour de la Pâque juive, tandis que l'Occident chrétien optait pour le dimanche après le 14 Nissan. Le Concile de Nicée en 325 a fixé la date de Pâques au dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Pourquoi ? Parce que les Juifs célébraient la Pâque le jour de la pleine lune de printemps, donc le 14 Nissan, et que Jésus, mort à cette date, est ressuscité le dimanche suivant. L'Occident a donc tenu à exprimer la joie de la résurrection pour Pâques. Donc les dates actuelles ne correspondent pas forcément à l'anniversaire exact de l'événement célébré. Il en est de même pour la fête de Noël. Nous y reviendrons encore en détail. Retenons ceci pour le moment. Au cours des siècles, et pour répondre aux luttes christologiques, c'est-à-dire à la question de la divinité du Christ, comme par exemple l'arianisme au IVe siècle, qui niait la divinité du Christ, on mettait davantage l'accent sur l'incarnation, c'est-à-dire sur le fait que Dieu avait pris chair de la Vierge Marie. La fête de Noël célébrer alors le mystère de la naissance du Christ. Depuis Origène, un grand philosophe et père de l'Église du IIIe siècle, on attribuait à la Sainte Vierge le titre de Mère de Dieu, un titre qui allait lui être décerné officiellement au Concile d'Éphèse en 431. Après Vatican II, dans les années 60 et 70, on a remanié la structure de l'année liturgique, mais les grands temps forts sont restés les mêmes. Nous allons donc nous restreindre à regarder de près ces grands temps forts et nous allons commencer par le temps de l'Avent. Il marque le début de l'année liturgique et commence dans 4 semaines, ou plutôt 4 dimanches, avant la fête de Noël, le 25 décembre. N'oublions pas qu'à chaque jour et à chaque circonstance de la vie de l'Église correspond une couleur liturgique. Regardons donc un peu de près les couleurs liturgiques. Le blanc, c'est le symbole de la résurrection, de la joie et de la virginité. On le porte donc à Pâques et à Noël, aux solennités du Seigneur, aux solennités des saints qui ne sont pas des martyrs, à la Toussaint, à la fête de la naissance de Jean-Baptiste, le 24 juin, à la fête de Saint Jean évangéliste, le 27 décembre, à la fête de la chaire de Saint Pierre, le 22 février, et à la fête de la conversion de Saint Paul, le 25 janvier. Le rouge, c'est le symbole de l'Esprit Saint, des martyrs et des évêques. On le porte le dimanche des Rameaux et le vendredi saint, à la Pentecôte, à la célébration de la Passion du Christ, aux fêtes des apôtres, aux fêtes des martyrs. Le vert, c'est la couleur ordinaire employée pendant l'année, les dimanches et les jours de la semaine, après l'Épiphanie, après la Pentecôte. Le violet, c'est la couleur de la pénitence et la conversion. Le violet est porté pendant le temps de l'Avent, pendant le temps du carême et pour les célébrations des défunts. Le noir se met pour les messes pour les défunts, les requiems solennels, les messes de suffrage, les messes d'obsèques ou messes d'enterrement. Le rose s'utilise le troisième dimanche de l'Avent, Gaudete, et le quatrième dimanche du carême, Laetare. Après cette brève parenthèse, reprenons notre réflexion sur le temps de l'Avent. Que veut dire « avant » ? « Avant » veut dire « arrivée » du mot latin « adventus ». C'est l'arrivée sur terre de notre Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps liturgique, nous méditons aussi bien sur la première arrivée de Dieu sur terre que sur son deuxième avènement à la fin des temps, quand il reviendra dans la gloire. Le temps de l'Avent est aussi bien un temps de commémoration de l'incarnation qu'un temps de l'attente, de l'expectative. On appelle la deuxième arrivée du Christ aussi la parousie. Le temps de l'Avent a donc également un aspect eschatologique. Le peuple d'Israël attendait le Sauveur, le Messie plein d'impatience. Seulement, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit né dans une étable, dans la pauvreté. Il attendait un puissant guide politique qui les libérait du joug des Romains. Mais nous autres chrétiens, nous méditons le mystère de notre salut à Noël tout en reconnaissant le dépouillement et la pauvreté voulue de ce petit enfant divin enveloppé dans les langes. La couleur de l'Avent est, comme mentionné déjà, le violet. Il nous appelle à la conversion et à la pénitence. L'Avent, c'est le temps des bonnes intentions, de la bonne volonté de changer notre quotidien en préparant la venue du Seigneur. Mais il y a encore une autre couleur que vous allez rencontrer pas seulement à l'église, mais aussi à l'intérieur des maisons. C'est le vert de la couronne d'Avent. C'est surtout dans les pays de l'Europe centrale que l'on a conservé la coutume de mettre une couronne d'Avent chez soi et une autre gigantesque à l'église. Le vert, c'est la couleur symbolique de l'espérance. Les quatre bougies de la couronne d'Avent nous rappellent que nous attendons la lumière née de la lumière, notre Sauveur. Il descend dans nos ténèbres pour nous remplir de sa lumière divine. C'est pourquoi, au rythme des dimanches de l'Avent, nous allumons une bougie après l'autre. Le temps de l'Avent connaît une célébration eucharistique spéciale, la Sainte Messe de Rorate le matin. On l'appelle aussi la Messe des Anges. Elle est célébrée souvent à la lueur des bougies le matin, quand il fait encore nuit. Elle doit son nom à l'introïte qui commence par « Rorate Celi de Super. Relisez Isaïe, chapitre 45, versets 8 et suivants. Ce qui veut dire « Aux cieux, pleuvez le juste ». N'oublions pas l'importance de la confession d'avant qui nous purifie pour la venue de notre Seigneur. Le temps de l'avant nous reste gravé dans la mémoire par ses coutumes. Chaque adulte se souvient avec nostalgie de ces coutumes qui ont malheureusement tendance à disparaître dans notre société de consommation matérialiste et ultra-stressée. Mais ce sont justement ces coutumes qui distinguent les temps forts des autres temps ordinaires, plus modestes, et qui procurent un caractère solennel et exceptionnel aux grands temps forts de l'Église. Pourquoi ? Parce que nous n'élevons pas seulement l'esprit vers le Seigneur, mais nous participons aussi cœur et âme à la grande joie de notre rédemption. Regardons donc de près la couronne de l'Avent, le calendrier de l'Avent, puis les branches de Sainte-Barbe, la fête de Saint-Nicolas, le pèlerinage de la Sainte-Vierge, la préparation de la crèche, et à la fin, les pâtisseries de Noël. La couronne de l'Avent. La veille du premier dimanche de l'Avent, les fidèles apportent leur couronne d'Avent à l'église pour que le prêtre les bénisse solennellement. La coutume de la couronne de l'Avent est née il y a très longtemps en Allemagne, au XVIe siècle environ, pour préparer les chrétiens à la grande fête de Noël qui allait venir dans 4 semaines. La couronne est un cercle de branches de sapin ou de pin qui nous rappelle que le temps des fêtes nous revient chaque année et le cercle est un très ancien symbole pour la vie éternelle. Sur la couronne, il y a 4 bougies. Chaque dimanche, on en allume une de plus. Plus la fête approche, plus il y a de lumière. Cela nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. Très souvent, les bougies sont fabriquées dans les couleurs liturgiques. 3 bougies en violet, 1 en rose. Rappelons que le rose est la couleur liturgique du 3e dimanche de l'Avent, Gaudete. Mais on voit aussi des bougies de toutes les couleurs. Très souvent, la famille chrétienne se rassemble autour de la couronne d'Avent pour écouter un passage de l'Évangile, pour chanter des chants d'Avent, ou pour dire la prière. Les bougies allumées renforcent le sentiment de la communauté et procurent un sentiment de bien-être et de sécurité. Elles nous donnent confiance en la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent est une tradition germanique née pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. L'idée en est de compter jour pour jour le temps de la préparation à la fête de Noël, ou comme le chante le psaume 90, verset 12, il nous fait savoir comment compter nos jours pour que nous venions de cœur à la sagesse. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux enfants, comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. Plus tard, les biscuits puis les chocolats remplacèrent les images. Le calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 fenêtres qu'on ouvre progressivement une par jour. On peut alors y lire la phrase de l'Évangile ou y prendre la confiserie qu'elle contient. Mais faisons attention à ce que ce calendrier prépare vraiment à la venue du Seigneur, et non pas à celle du Père Noël, ou à celle d'un autre personnage de conte de fées. Le 24 décembre, la petite porte du calendrier doit s'ouvrir sur la crèche de Jésus, entourée de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Les branches de Sainte Barbe. Sainte Barbe, Barbara en grec et latin, est une sainte de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe fêtée le 4 décembre. D'après la tradition chrétienne, elle aurait vécu au milieu du 3e siècle à Nicomédie, en Asie mineure, aujourd'hui Izmit en Turquie, sur la mer de Marmara. D'autres sources la font naître à Héliopolis, aujourd'hui Baalbek au Liban, où elle aurait vécu sous l'empereur Maximien. Elle est donc une sainte chrétienne originaire des terres qui sont devenues islamiques par la suite. Son père, Dioscore, aurait été un riche édile païen, descendant de satrape perse. Pour protéger sa virginité ou la protéger du prosélytisme chrétien, il l'enferma dans une tour à deux fenêtres. Mais pendant son séjour forcé, Barbe est devenue chrétienne et, pour affirmer sa foi, il a fait percer une troisième fenêtre dans la tour pour glorifier la Sainte Trinité. D'ailleurs, vous trouvez aussi l'agencement de trois fenêtres en signe de la Sainte Trinité dans les murs des églises cisterciennes. Fou furieux, son père chercha à la faire périr. Il la traîna devant le gouverneur romain de la province, qui la condamna au supplice. Comme la jeune fille refusait d'abjurer sa foi, le gouverneur ordonna au père de trancher lui-même la tête de sa fille. Dioscore la décapita et, d'après la légende, fut aussitôt châtié par le ciel. Il mourut frappé par la foudre. Sainte Barbe est la patronne de plusieurs métiers, comme par exemple, elle est la protectrice des architectes, des géologues, des pompiers, des mineurs et, par extension actuellement, des ingénieurs des mines, etc. Puis elle protège les tunnels, cavernes, etc. Dans beaucoup de pays, on célèbre sa fête de façon particulière, comme par exemple dans les pays germaniques, dans plusieurs provinces de France et au Liban. Je vous signale à titre d'exemple la tradition alsacienne où le 4 décembre, on coupe des branches d'arbres fruitiers, en particulier le cerisier, qui sont placés dans un vase rempli d'eau. À partir de là, il faut quotidiennement couper un petit bout du pied de la tige et renouveler l'eau tous les 3 jours environ. En général, les branches fleurissent vers Noël et une belle floraison est signe d'abondance. Mais les belles fleurs sont aussi le symbole de la naissance virginale de Jésus. Les branches fleurissantes rappelle le rejeton de Jessé, Jésus-Christ. Rappelez-vous le passage du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 et suivants, dont nous avons parlé lors des 7 dons du Saint-Esprit. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé, son inspiration est dans la crainte de Yahvé, etc. Bref, avec ses branches fleurissantes, on peut échanger un signe d'amitié avec des personnes esselées à l'occasion de la fête de l'amour de Dieu. La fête de Saint-Nicolas. Il y a encore un autre saint très célèbre, d'origine d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. C'est le célèbre évêque Nicolas de Myre, en Lycie, situé dans l'Anatolie du Sud-Ouest. Il était un des pères du concile de Nicée en 325, qui professa la divinité du Christ contre l'hérésie d'Arius. Cet évêque était un témoin et défenseur inébranlable de la foi trinitaire. On fête l'anniversaire de sa mort le 6 décembre. Son engagement pour la divinité du Christ fait qu'il mérite toute notre vénération dans les temps actuels. Il y a beaucoup de légendes qui accompagnent sa vie de missionnaire et de bienfaiteur. Par exemple, lorsqu'il a sauvé 3 jeunes filles de la misère et du déshonneur. leur père, vivant dans la pauvreté noire, était incapable de leur payer une dot, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses pour ses filles. Alors Saint-Nicolas jeta 3 pépites d'or, c'est-à-dire 3 gros morceaux d'or, à travers la fenêtre du pauvre père et faisait ainsi le bonheur de toute la famille. Au XIe siècle, les reliques de Saint-Nicolas ont été transférées à Bari, en Italie, pour les protéger de l'invasion des Sarrasins. À partir de là, leur vénération s'est répandue à travers tout l'Occident. De nos jours, il y a encore la belle coutume qu'un personnage déguisé en Saint-Nicolas évêque vienne voir les enfants pour les récompenser de leurs bonnes actions durant toute l'année. Voilà quelques coutumes qui nous aident à approfondir le temps de l'Avent. La prochaine fois, nous regarderons de près le pèlerinage de la Sainte Vierge, la préparation de la crèche et les pâtisseries. Puis nous étudierons la fête de Noël et le temps de Noël. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, pour aujourd'hui, nous terminons ce cours par la belle prière du « Je vous salue Marie », car l'attente de Noël, comme l'attente du second avènement de Jésus, se fait bien sûr avec Marie. Car elle attendait d'une triple façon. Elle attendait Jésus en tant que mère, comme toute maman attend son bébé. Elle attendait en tant que juive, comme tout le peuple d'Israël, depuis des siècles, se préparait à la venue du Messie. Et elle l'attendait comme la comblée de grâce, la pleine de grâce, c'est-à-dire une femme éprise de Dieu, assoiffée de lui et unie à lui comme aucun être à côté d'elle. Personne mieux que Marie ne peut nous apprendre à désirer et à attendre Jésus. Récitons ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, je vous remercie de votre écoute et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois. Votre Véronique.
Πληρώσουμε μεν την δέησιν ημών το Κυρίο.
Κύριε Ελεήσον.
لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب.
Κύριε
برأفة ابنك الوحيد الذي أنت معه مبارك مع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
آمين.
سلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة.